Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu. Le Rendez-vous Jeu, c'est une émission bimensuelle, normalement, hein, qui vous fait un résumé de toute l'actu des jeux vidéo sur console, sur PC, même sur tablette parfois, sur tablette ou sur téléphone. Je suis Patrick Béja et c'est notre premier vrai épisode où on va vraiment couvrir l'actu. Parce que vous vous en souvenez, l'épisode précédent, c'était un épisode spécial BlizzCon, puisqu'on était présent à la BlizzCon avec Julien, Damien et Emmanuel. Et l'épisode encore d'avant, c'était avec Sylvain, Aymeric et Jean, où on avait fait un tour complet de l'industrie et de chaque plateforme pour vous fournir une sorte de guide d'achat de ce Noël. Et donc, si vous n'avez pas encore écouté ça et que vous voulez des informations sur tout ça, vous pouvez aller écouter les épisodes précédents. Mais aujourd'hui, on fait vraiment l'actu, ce qui s'est passé ces dernières semaines. Et j'ai avec moi deux co-animateurs que j'apprécie particulièrement, ce qui est bien parce que si je les appréciais pas, ça serait moins cool. J'ai d'une part Cédric Bonnet, qui est mon camarade de podcast depuis bien longtemps. Comment vas-tu, Cédric?
Ça va très bien, écoute.
Et un grand amateur, grand spécialiste de jeux vidéo. Et j'ai aussi Philippe Fontaine, qui est la caution journalistique de l'émission, puisque c'est un journaliste de longue date qui a travaillé notamment pour l'ordinateur individuel, qui fait Science et Vie Junior, qui fait aussi les dossiers de la recherche en ce moment. Et enfin bon, comment vas-tu, Philippe?
Ça va très bien, Patrick, et toi?
Ben écoute, moi je suis en forme, c'est le matin, on va parler de jeux vidéo, donc moi je suis content. Ben merci à tous les deux d'être dans cette émission. Une petite précision pour le format. On est vraiment en train de construire l'émission, j'aurai des animateurs à chaque fois différents. Et pour le format de l'émission, je ne sais pas encore très bien lequel sera le plus adapté. Donc on va essayer des choses peut-être un petit peu différentes à chaque fois, on verra. Le format que j'ai choisi aujourd'hui, c'est de faire d'abord toute une série de news et puis ensuite un sujet de discussion un petit peu plus sérieux. Et le sujet de discussion, ça sera les problèmes au lancement des jeux, la faute à qui, la faute aux développeurs, est-ce que c'est ils nous vendent des jeux pas finis, est-ce que c'est la fatalité du lancement d'un jeu. Donc cette discussion qui est un petit peu d'actualité, puisqu'il y a eu beaucoup de jeux qui ont été lancés avec des gros problèmes au lancement ces dernières semaines. Et au début de l'émission, on va suivre, donc on va évoquer toute une série de news qui m'ont paru importantes. Alors évidemment, dans les jeux vidéo, on peut pas tout couvrir, mais on va essayer de couvrir l'essentiel. Et comme je le disais depuis le début du lancement de cette émission, on va essayer de le faire avec un petit peu d'analyse, de sérieux. C'est pas juste hey, on a joué à ci, on a joué à ça. Et d'ailleurs, on va pas tellement parler des jeux auxquels on a joué, encore que on va en parler un petit peu quand même. Mais c'est surtout essayer de vous donner un résumé, un panorama de l'actu du jeu vidéo, plus que dire ouah, tel jeu il est trop plus mieux que tel autre jeu. Donc ouais. Voilà, c'est l'idée. Cédric a essayé de mettre la rubrique tel jeu est bien plus mieux que tel autre jeu,
c'est ça.
Mais j'ai refusé catégoriquement. Ça va, Cédric en forme, Philippe en forme?
Bah oui, complètement. On va pas te laisser parler tout seul longtemps, je te rassure.
Très bien. Je compte sur vous. Donc oui, Philippe, c'est ton premier podcast, je crois. Donc tu n'hésites pas à interrompre, à rentrer dans le tas.
Faut y aller, là.
Oui, c'est ça. C'est genre, Patrick, tu racontes n'importe quoi, laisse-moi parler. Tu dis ça.
J'y manquerai pas.
Très bien. Donc, on va commencer avec une première constatation qui est même pas vraiment une news. Ça commence bien, vous me direz. C'est la période de Noël et il y a plein de sorties. Alors, on peut même pas toutes les évoquer.
Non.
Mais Call of Duty Modern Warfare, Assassin's Creed Unity, Dragon Age Inquisition, World of Warcraft Warlords of Draenor, Smash Bros. Et puis des extensions qui arrivent avec celles de Destiny, etc., etc.
Il y a
The Crew, t'as raison. Enfin, il y en a des tonnes et des tonnes. Je pense que en temps normal, peut-être qu'on essayera de s'apesantir un petit peu plus sur chaque jeu. Là, je crois que c'est même pas la peine parce qu'on passerait trois heures. Peut-être rapidement le jeu que vous attendez le plus dans cette période ou que vous appréciez le plus, auquel vous avez déjà joué.
Moi, Dragon Age Inquisition, c'est celui que j'attends moi.
Ouais.
Je suis fan inconditionnel de la série, y compris de Mass
même
Effect aussi. Je l'ai fini le 2.
Ouais.
Deux fois. Tu vois, faut avoir envie.
Hein.
Oui, Dragon Age 2, oui. On parle bien de celui-ci.
Ah oui.
Et même si il avait d'énormes défauts, et même presque, j'allais dire presque que des défauts, l'histoire faisait vraiment avancer l'univers global.
Ouais.
Et je trouvais le chara-design aussi assez sympa.
Ouais.
Et si tu veux, je me suis laissé porter par les personnages, la façon dont les personnages interagissaient entre eux et tout ça. Mmh. Et j'ai dit bon, mais tant pis, je vais essayer d'oublier que le jeu est vraiment
que
mauvais.
Que le jeu est pourri.
Et je vais m'attacher à l'histoire. Et j'ai quand même apprécié le jeu, même si des fois j'avais envie de jeter ma manette. Mais j'attends la suite avec impatience, vraiment.
D'accord. Très bien. Et tu me disais que vous risquiez d'acheter deux consoles.
Il y a des chances qu'on achète deux consoles en plus.
D'ailleurs, ça peut nous amener une question sur le multijoueur coopératif, enfin le multijoueur sur une même sur une même machine qui disparaît un petit peu. En même temps, il y a certains jeux qui s'y attachent. Modern Warfare, Advanced Warfare, visiblement un mode coopératif.
Non, mais là, t'imagines, c'est deux consoles, deux abonnements live, si
deux
c'est télé, Xbox Live, deux télé. Ouais. De télé, c'est bon.
Ah oui,
mais,
d'accord.
On doit pouvoir se débrouiller. Non, mais tu peux brancher sur un écran de PC, ça passe, tu vois.
C'est vrai.
Mais c'est surtout deux abonnements live, deux jeux à 60 et quelques euros, plus les deux consoles.
Ah oui, mais t'imagines Dragon Age à jouer à deux sur la même machine.
Ouais, non, c'est pas possible.
Sur ce jeu, c'est sûr que ça serait pas possible. Il y en a d'autres, des FPS, ce genre de choses.
Mais ça commence
à Smash Bros.
Ouais, mais c'est pas du tout mon truc.
C'est sûr. Philippe, toi, il y a un jeu que t'attends ou auquel tu es déjà en train de jouer?
Je l'attends aussi, mais...
D'accord, j'ai cru que t'allais dire World of Warcraft.
Pour une autre raison, que moi, j'étais tellement déçu par le 2 que je n'ai pas eu le courage d'outrepasser les défauts pour essayer de voir ce qu'il y avait après.
Je te rassure, t'es pas le seul. Hein.
Ah non,
j'avais tellement
aimé
le premier que ça a été une grosse désillusion au deuxième. Donc effectivement, j'attends le troisième en espérant qu'ils vont redresser la barre parce qu'il y a un tel potentiel dans ce jeu. Telle richesse. Enfin, moi qui suis un gros joueur de jeux de rôle, y compris papier, depuis des temps.
Est-ce que tu as joué au jeu de rôle papier Dragon Age?
Non.
J'y ai joué. Et c'est juste incroyable. Ça reprend vraiment tout cet univers qui est ultra riche. Pour moi, ça mériterait mille fois mieux que le second.
Moi, c'est ce qui m'avait plu, c'est qu'on retrouvait ce jeu la richesse qu'on avait dans les jeux de rôle papier et puis dans les
jeux PC.
Style Baldur's Gate ou Icewind Dale à l'époque. Quoi.
Mais c'était leur promesse au début avec Dragon Age le premier, Origins, qui était justement un retour aux jeux de rôle classiques et c'est pour ça que le 2 avait été si décevant. Mais bon, je pense que le Inquisition, qui en plus a des excellentes reviews, des excellents avis semblent tenir les promesses ratées du 2 et même du 1er. Donc c'est visiblement le jeu que vous attendez le plus, c'est très bien.
Et Warlords évidemment.
L'extension de WoW.
Voilà, auquel j'ai commencé à jouer. Voilà.
Ouais, peut-être qu'on en parlera un petit peu plus tard. Ça, c'est aussi le jeu qui m'a occupé ces dernières semaines, ces deux dernières semaines. Donc,
il y en a un autre aussi qui m'a occupé. Je vous en parlerai peut-être un peu.
D'accord.
Un peu plus tard aussi.
Ok. Bon, l'autre chose à retenir, c'est que il y a les soldes qui arrivent bientôt. Non seulement les soldes de Noël, mais aussi les soldes de Black Friday. Je pense qu'on en aura sur Steam, mais pas seulement sur Steam, sur toutes les plateformes, PlayStation Network, Xbox Live, etc. À la fin de la semaine, normalement, Black Friday. Donc c'est Black Friday jusqu'à Cyber Monday, donc c'est cette semaine, la semaine du 24.
La semaine des banquiers.
On enregistre le 25, donc c'est ça. Maintenant les vraies informations et on allait dire qu'on allait parler de WoW. La news que j'ai retenue en premier, qui est sans doute, bon, c'est aussi parce que c'est mon ancien employeur peut-être, non, pas du tout, c'est juste parce que c'est vraiment une news surprenante, World of Warcraft renoue avec les 10 millions d'abonnés à la suite de la sortie de Warlords of Draenor, qui est sa dernière extension, qui a été d'ailleurs un petit peu chaotique, on y reviendra ensuite, mais... L'explication a l'air d'être cohérente. 10 millions d'abonnés, on est passé de 7,4, je crois, les derniers chiffres qu'ils avaient donnés, à 10 millions. C'était vraiment inattendu. Et puis
c'est à ce point, parce que à chaque fois qu'une extension sort, en général,
oui, mais
y a un retour de joueurs.
Un retour certainement, mais la différence entre le pic bas et le pic haut récemment, si tu suis les courbes, je pense que personne ne s'attendait à ce qu'il remonte aussi haut. Ouais. Il y avait 7,4 millions les derniers chiffres, ils étaient descendus à 6,8 je crois, ou 9. Et on s'attendait tous à ce que ça remonte à 8 millions, 8 millions et demi, quelque chose comme ça. Mais 10 millions, c'était vraiment étonnant, quoi. Okay. C'est vraiment le MMO indéboulonnable. Enfin bon, il n'y a pas énormément plus de commentaires que ça à faire, mais si vous en avez quand même, je sais pas, Philippe, toi qui es un amoureux de World of Warcraft.
Oui, moi j'ai été un peu surpris aussi par un tel rebond. Ça peut peut-être s'expliquer par le fait que Blizzard WoW vient de fêter ses 10 ans.
C'est sûr.
D'ailleurs, j'invite tous les joueurs à se connecter pour avoir le droit à la petite mascotte qui fête l'anniversaire.
Le Molten Corgi, oui, qui est très très beau.
Le petit corgi du magma. Et puis aussi peut-être par le fait qu'elle avait une... Contrairement à la précédente Mist of Pandaria, World of the Draenor a eu une bonne presse dès le départ. Il y avait pas mal d'innovations qui étaient susceptibles d'intéresser les joueurs et pas forcément les anciens, notamment le fief, qui apporte une nouvelle dimension au jeu, un challenge supplémentaire. Peut-être que c'est ça. Honnêtement, j'ai un peu de mal à comprendre un tel rebond, mais c'est vrai que Mist of Pandaria avait été un petit peu raillé. L'extension ressemblait un petit peu à un appel, à un clin d'œil aux abonnés chinois, qui n'a peut-être pas été aussi bien perçu par le reste de la communauté.
Je pense qu'il y a vraiment un perfect storm, un ensemble d'éléments. Le retour a effectivement à une histoire beaucoup plus classique avec l'ancien monde des orques, tout ça. Les 10 ans qui ramènent WoW sur le devant de la... Enfin, 10 ans, c'est incroyable. 10 millions d'abonnés après 10 ans, c'est invraisemblable. Le fait que toutes les anciennes extensions soient incluses dans le pack de base, c'est-à-dire que n'importe qui a déjà joué à World of Warcraft à toutes les extensions jusqu'à Mists of Pandaria et donc il n'a qu'à acheter Warlords of Draenor pour se replonger dedans, le fait qu'il y ait le personnage le boost de personnage niveau 90 inclus dans l'extension pour que les gens qui l'achètent peuvent revenir et recommencer à jouer avec tous leurs amis au niveau max et commencer à leveler dans le nouveau contenu, ils n'ont pas besoin de releveler à travers toute une série d'extensions qui sont maintenant anciennes. Donc bref, c'est tout un ensemble de trucs qui font que moi forcément j'ai des attaches émotionnelles à World of Warcraft qui est le premier, c'était le sujet de mon premier podcast, et maintenant que je suis un podcasteur professionnel évidemment ça me touche beaucoup, mais c'est vrai que c'est un succès un petit peu inattendu et ça m'emplit de joie parce que 10 ans c'est une occasion, c'est un événement important pour quelqu'un qui est aussi amoureux de WoW que moi. Call of Duty, alors un truc intéressant pour Call of Duty, c'est que généralement on avait les chiffres de vente qui étaient annoncés, comme pour Warcraft qui a annoncé ses 10 millions d'abonnés. Souvent dans l'industrie, quand il y a un gros jeu qui sort, il y a communiqué de presse de vente, de mise en vente, et puis quelques jours après, c'est le communiqué de presse de on se tape la poitrine, on est fier, on a vendu tant de trucs, on a fait tant de World of Warcraft, enfin Blizzard le fait souvent, Activision le fait souvent, il y en a d'autres qui le font souvent, et là ça a été Call of Duty qui a annoncé, enfin Activision qui a annoncé que la franchise des 10 milliards de dollars de vente pour la franchise, pardon, je parle pas clairement. La franchise Call of Duty a atteint 10 milliards de dollars de vente avec ce Call of Duty Advanced Warfare. Alors, Évidemment, c'est un chiffre énorme, hein, sur ça, la franchise existe depuis longtemps, mais il n'empêche, 10 milliards de dollars de vente, c'est important pour toute la franchise, mais donc ça inclut absolument tous les jeux Call of Duty, peut-être même d'autres choses que les jeux. Mm-hmm. Et surtout, les chiffres de Advanced Warfare n'ont pas été donnés. Ce qui est une grosse préoccupation, surtout que Advanced Warfare visiblement amène un bon renouveau à la série des Call of Duty qui commençait à manquer un petit peu de peps ces dernières années. Mais il n'empêche que ça veut sans doute dire que s'il y avait des très bons chiffres à annoncer pour les ventes de Advanced Warfare, s'ils avaient battu des records ou ce genre de choses, ils les annonceraient. Donc là, ça veut dire qu'ils ne les ont a priori pas battus, ces records. Même si le jeu est mieux. Je ne sais pas si vous l'avez essayé ou si vous avez un avis sur les 10 milliards de dollars de ventes.
Écoute, j'ai pas grand chose à dire. Je suis pas fan de la franchise déjà. Qu'ils aient atteint 10 milliards, ça ne m'étonne pas, vu l'engouement qu'il y a autour de ces jeux. C'est effectivement, comme tu dis, c'est peut-être curieux qu'ils aient pas annoncé les chiffres de vente du dernier. Après, ça veut pas dire qu'ils sont mauvais, hein, mais peut-être qu'ils attendent qu'ils soient meilleurs, en fait.
Non, mais c'est peut-être simplement dans le but de rassurer les investisseurs aussi.
Ouais. Et peut-être que ça correspond à une période fiscale aussi.
Parce que c'est une période fiscale forte pour Activision Blizzard. Et, donc d'un côté, il y a Blizzard qui fête les 10 millions de, enfin les 10 ans, les 10 millions d'abonnés, plus derrière les 10 milliards. Il y a que des 10 en fait.
Ouais, ça. On en a encore
ans,
10 des
milliards,
10 après.
10 millions.
Ouais, disons que à mon avis le meilleur moyen pour rassurer les abonnés. Ça c'est mes abonnés. Non,
les actionnaires,
ça serait de dire Call of Duty s'est vendu à 4 millions d'unités, tu vois. Mais bon, bref.
Ils attendent peut-être d'avoir atteint les 4 millions.
C'est possible. Ah, 4 millions, c'est beaucoup, je sais pas s'ils le feront, mais 10 millions, c'est le nombre de consoles Xbox vendues aux US. Alors on parlait il y a deux épisodes du fait que la Xbox One était un petit peu pas tellement en forme, machin. Aujourd'hui, surtout aux États-Unis avec la réduction à $350 avec un ou deux jeux. En France, on l'a pas eu cette réduction. Je suis très frustré. Moi, je me serais précipité.
Ça m'aurait aidé à choisir.
Ouais. Malheureusement, on l'a pas eu visiblement et je pense pas qu'ils la mettent en place maintenant. Mais il n'empêche, aux États-Unis, ils ont annoncé que la Xbox faisait mieux et qu'ils ont 10 millions de consoles vendues, c'est monde, hein, si je ne m'abuse. Mais alors là encore, il y a une chose à laquelle il faut faire attention, c'est du sell-in, c'est-à-dire que c'est de l'inventaire chez les
distributeurs.
Les distributeurs, voilà. Contrairement au sell-through, qui est la vente aux consommateurs, aux clients. Et les chiffres qu'avait annoncé Sony, les derniers chiffres qu'ils avaient annoncés, qui étaient de 13,5 millions de consoles vendues, je crois, pour la PlayStation 4, c'était du sell-through. Donc vraiment, ils étaient dans les
mains des consommateurs.
Voilà, c'est ça. Donc bon, ça veut pas dire que 10 millions, c'est rien, hein, mais...
Ouais.
C'est une belle remontée pour la Xbox One, et puis c'est clair que les consoles qui sont chez les distributeurs vont être...
Oui, la période de Noël.
Voilà, elles vont trouver acheteurs, mais c'est une distinction qui est importante. Quand on vous annonce des chiffres de vente, je pense qu'il est toujours important de se dire « Attends une seconde, sell-in ou sell-through ?» Voilà. Mm-hmm. J'imagine que dans ton métier, c'est le genre de détail auquel on s'attache, Philippe. C'est le genre de petites choses que tu regardes dans les communiqués de presse triomphants des constructeurs et des développeurs.
Oui, bien sûr. Mais au-delà de ça, moi, ce qui m'amuse, c'est plus de regarder les commentaires des joueurs ou des possesseurs. Parce que tu sais, de la même manière qu'il y a une communauté entre Apple pour les smartphones et le reste du monde, là, il y a toujours un combat entre la Xbox et la PlayStation. Or, les deux consoles ne se sont jamais autant ressemblées qu'aujourd'hui, quoi. C'est assez drôle.
C'est
Ils ont
faux.
Les mêmes jeux, à part quelques exclus.
Ouais.
Donc, on pourrait penser qu'elles seraient d'ailleurs au même chiffre de vente. Après, il y a une affinité, je pense, historique envers la PlayStation parce qu'elle est plus ancienne déjà.
Ça c'est en France, hein, mais c'est pas le cas aux États-Unis. Aux États-Unis, on en parlait justement dans notre état des lieux.
Au Japon, c'est la PlayStation, ils ne vendent pas d'Xbox.
Bien sûr. Mais la PlayStation se vend mieux même aux États-Unis que la Xbox, alors que c'est le territoire historique de Microsoft aux États-Unis. Ceci dit, aujourd'hui, je pense que le critère, enfin le choix est beaucoup plus proche. C'est beaucoup plus difficile de faire un choix entre les deux, même qu'il y a quelques semaines, quand on a enregistré notre état des lieux. Donc, puisque enfin, c'était clair, ça allait se rapprocher de toute façon, mais Microsoft réussit son pari, donc. Est en train de réussir, c'est pas encore fait. Et il y a des gens qui m'ont houspillé sur Twitter en me disant oh, pourquoi tu te conseilles une PlayStation 4, qui était notre conclusion finalement. On se disait bon bah s'il y a à choisir, tout étant égal, autant prendre une PlayStation 4 parce que c'est celle qui a le plus de, bref, je vais pas refaire l'épisode, mais on m'a bien houspillé sur Twitter. Bah je suis désolé, il faut bien faire un choix à un moment. S'il faut en conseiller qu'une seule, nous c'est celle-là qu'on conseille. Maintenant ça veut pas dire que la Xbox One n'est pas une bonne console, au contraire. Et je suis sûr que si on avait dit ouais c'est plutôt la Xbox One qu'on voudrait conseiller, les gens nous seraient tombés dessus en nous disant mais
ben,
la
c'est
PlayStation
pour ça,
4
il faut même pas rentrer ouais. dans le débat en fait.
C'est vrai, non mais bon, non moi je continue à dire que a priori si on ne doit en choisir qu'une seule, je dirais plutôt PlayStation 4 pour toute une série de raisons, mais bon, il n'empêche que le choix Xbox One se défend tout à fait. Et ce qui se défend tout à fait aussi, c'est cette tendance qu'ont certains éditeurs, certains développeurs, à dire qu'ils vont inclure les DLC, les contenus additionnels, enfin, pas qu'ils vont les inclure, mais qu'ils vont les livrer aux joueurs, à leurs clients, gratuitement. On a vu ça avec Evolve, qui est un jeu où vous savez, où on joue 4 joueurs contre un joueur, et 4 qui jouent des chasseurs, un qui joue un monstre.
C'est vachement bien.
T'as joué à la bêta?
Ouais. Enfin, l'alpha, ouais. C'était...
Oui, c'était l'alpha, c'était la big alpha, t'as raison. Et The Witcher aussi, The Witcher 3, qui est un jeu, là encore, c'est pour ceux qui aiment les jeux de rôle, que les gens attendent avec impatience. Tous les deux vont sortir en 2015. Mais tous les deux ont annoncé que leur contenu additionnel serait disponible gratuitement, à contre-courant de l'industrie, qui aujourd'hui, bah, les contenus additionnels sont payants, un petit peu partout. Alors, tous les deux, c'est des studios qui sont un petit peu, qui sont pas des énormes studios. The Witcher, c'est CD Projekt, si je ne m'abuse, ouais, qui sont ça. Des Polonais un peu fous. et Evolve, bon, c'est une petite équipe aussi. Est-ce que c'est un retour de bâton sur les DLC payants, ou est-ce que c'est un simple coup marketing, et peut-être sincère aussi, hein, bien sûr, de ces développeurs?
Moi, j'ai pas l'impression que ce soit qu'il y a aussi une partie de marketing dedans, mais je pense vraiment que ils ont conscience que quand tu achètes un jeu, et que, alors on va pas parler d'Ubisoft parce que là sinon je vais m'énerver, mais quand tu achètes un jeu et que pour avoir le jeu complet avec absolument toutes les extensions, soit tu passes à la caisse, soit tu achètes 12 versions du jeu pour être sûr d'avoir tous les bonus possibles et imaginables. Je pense qu'ils ont compris que ça, c'était un truc qu'on ne voulait plus voir. Et même les DLC le jour de la sortie, je trouve que c'est quand même un peu fort. Enfin, c'est mon avis personnel, hein, mais je trouve que c'est quand même un peu fort de pas avoir intégré au jeu, par exemple, une map ou un truc supplémentaire, et de le proposer tout de suite en téléchargement payant. Je trouve ça un peu naze.
On est d'accord, c'est honteux, mais je pense que la grande majorité des joueurs trouvent ça absolument honteux. On te vend un jeu par appartement, quoi.
Mais là, tu vois, le fait que CD Projekt dise en gros, bon ben voilà, on vous livre un jeu, mais on avait prévu parce que l'impression que ça donne, c'est on vous livre un jeu, mais on a prévu plein de petits trucs à côté. Et tant qu'à faire, ben on va vous les donner parce que bon, on va pas vous faire payer ça quand même. C'est le même jeu finalement, sauf que bah vous allez avoir quelques petits bonus en plus. Et après, il faut voir une chose aussi, c'est que entre les deux The Witcher, il s'est écoulé énormément de temps, entre le 2 et le 3, que si tu veux, c'est un peu aussi un moyen de permettre, enfin, de garder les joueurs sous la houlette de leur franchise, parce que c'est pas des studios qui sortent un jeu tous les mois, quoi, tu vois, ou tous les ans. Donc, si tu veux, ça, le fait de distribuer en gros gratuitement le jeu, c'est bah tiens, regardez, on existe toujours. Ressortez votre The Witcher et on arrive dans un an ou dans 2 ans, tu vois, avec ou dans 3 ans avec le 4e épisode. Mais en attendant, on vous fait patienter en vous donnant un petit peu de trucs à vous mettre sous la dent, et puis en plus, on le fait gratuitement, quoi, tu vois. Je le vois plus comme ouais. ça. Moi.
Philippe, un avis sur la chose, et puis après, moi, je ferai l'avocat du diable parce que je suis pas tout à fait d'accord avec vous.
Ben moi je trouve l'analyse de Cédric assez intéressante. Effectivement, le fait de sortir des DLC, effectivement, il y a quelques années, un jeu sortait complet, il n'y avait pas de DLC. Enfin, je
dis,
aujourd'hui, le fait de dire que on a prévu ces petites choses, mais on va vous les donner gratuitement au fur et à mesure. Du moment que c'est gratuit, j'ai envie de dire pourquoi pas. Franchement, j'ai envie de dire pourquoi pas. Moi, ce qui me navre, ce sont les DLC où on voit clairement qu'elles ont été faites en même temps que le jeu lui-même.
Ah oui, ça s'intègre à l'histoire et tout.
Au fond de goutte. Ce qui démontre en fait de façon flagrante que on achète un jeu qui est fini, mais qu'on ne nous offre pas fini. On va nous offrir la version finale petit à petit, et donc au final le jeu il ne coûte pas 60€, mais il coûte 100, 120€ quoi. Et ça par
Alors
contre,
moi
ça
je comprends que ça agace, je suis tout à fait d'accord, mais j'ai quelques arguments contre. Je vous trouve un petit peu dur et je vous trouve un petit peu... je trouve que vous faites abstraction d'une partie des réalités du marché. D'une part, les jeux, le prix des jeux n'a pas augmenté depuis, 10 ans à peu près. Avec la sortie de la dernière génération de consoles,
on ne dit pas que les prix des jeux ont augmenté,
laisse-moi finir parce que c'est important. Les coûts de production des jeux ont énormément augmenté, tu vois. Donc le fait que le prix des jeux n'ait pas augmenté, il faut bien à un moment qu'il se retrouve. Il y a eu aussi l'inflation, et encore une fois le prix des jeux n'a pas augmenté alors que finalement ça leur rapporte par rapport à avant moins d'argent. Alors évidemment, il y a des sociétés qui font énormément d'argent, mais il y en a aussi qui font pas énormément d'argent.
Oui, volumes écoulés, enfin je veux dire, tu t'y retrouves aussi, donc
ben oui et non, hein, pas forcément
pas
sur
tous les
jeux,
je suis d'accord.
C'est ça. Et ensuite
bizarrement, ce qu'on citait en exemple, hein, Assassin's Creed et autres, eux par contre c'est cool, à des millions d'unités, il n'y a pas de problème.
C'est certain, mais Assassin's Creed 2014, il coûte quand même beaucoup plus cher à développer. Enfin, c'est des jeux, ce genre de jeux, c'est des jeux mais invraisemblablement chers à développer. Tu vois, par rapport à un truc qui sortait en 2004, pour prendre 10 ans en avant, il y a une différence de taille d'équipe, de temps de travail, de qui est invraisemblable. Alors oui, ils en vendent plus, mais il n'empêche que les jeux coûtent beaucoup plus cher à développer et que le prix du jeu lui-même n'a pas augmenté. Donc, à un moment, c'est normal aussi qu'il y ait un moyen pour récupérer un petit peu plus d'argent. Il y a un autre truc que je voudrais dire aussi, c'est que personne n'est obligé d'acheter ces contenus additionnels. Généralement, oui, si tu veux avoir absolument tout dans le jeu, tu dois les acheter, c'est sûr. Mais d'un autre côté, ça te donne accès au jeu à une bonne, parce que les jeux sans le contenu additionnel, on peut jamais dire qu'ils soient handicapés. C'est des jeux, oui, il y a des trucs en moins, mais c'est pas des jeux handicapés. Dans 99% du temps, c'est quand même un vrai jeu bien complet qui te fait une expérience totale du jeu qu'ils te vendent. Voilà. Donc c'est pas qu'ils t'ont... Non, t'es pas d'accord, Cédric?
Dans Mass Effect, pour citer que lui, c'est dans le 2, je crois, la mission du courtier de l'ombre, je trouve qu'elle est assez importante pour l'histoire. Et au final, c'est un DLC, quoi, tu vois.
Oui, mais est-ce que ton Mass Effect 2, il était pas bien sans cette mission?
Non, mais quand je l'ai acheté, j'ai pris toutes les extensions. J'ai pas réfléchi.
Oui, bah,
et
d'accord.
J'ai tout joué dans l'ordre avec toutes les extensions.
Bah
et
oui,
tout
mais
ça.
Parce que toi, t'es
et
un
là,
fan
j'avais
de
la
Mass
sensation.
Effect.
Oui, mais là, j'avais la sensation d'avoir joué au jeu complet.
Ouais.
Je pense que si j'avais pas fait le Courtier de l'Ombre, entre autres, mais qui est pour moi une des plus importantes, j'aurais l'impression d'être passé à côté de quelque chose, tu vois. Et c'est ça que je trouve dommage. Et sachant que.
Bah, si on parle de Call of Duty, par exemple, il y a des cartes en plus, il y a des choses comme ça qui sortent généralement deux par épisode, donc deux par an, en plus pour les gens qui sont des fondus du jeu, et qui coûtent, bon, ce que c'est, 10-15€ en plus par pièce, ce qui est un peu cher, hein, je dis pas le contraire, mais ça veut dire que si le jeu complet coûtait non pas 70 mais 100€, bah il y a plein de gens qui ne pourraient pas l'acheter, qui ne voudraient pas l'acheter, alors que là on a le jeu quand même,
ouais, enfin,
une énorme partie du jeu à 70€, et si on en veut plus, on peut payer plus. Non, alors, j'ai pas l'impression de vous convaincre avec mes arguments.
Enfin non, mais je comprends,
c'est difficile de revenir en arrière en tout cas. C'est-à-dire que
oui. Voilà. Bah encore que des studios comme CD Projekt ou tu vois, ils disent nous on vous file tout gratuitement. Peut-être que si suffisamment de gens se mettent à ne pas acheter les DLC, en fait le problème c'est que les gens les achètent. tu vois. Si personne les achetait, donc ça veut dire que quelque part, les gens pensent qu'ils valent le coup. Parce que si jamais ces DLC, et tout le monde ne les achète pas, hein, je veux dire, toi Cédric, t'as acheté les DLC de Mass Effect parce que t'adores Mass Effect, t'as pas été acheter les DLC d'un autre jeu que t'aimes pas. Donc, il y a une petite partie des gens qui les achètent, c'est rentable pour les développeurs, mais si personne les achetait, ils le feraient pas. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont clients pour ça, non ?
Oui, et en même temps, mais après
la solution que je fais moi, c'est que j'attends le Black Friday ou autre, et puis j'achète le jeu un petit peu plus tard, mais avec toutes les DLC. Oh.
Voilà, l'édition.
Et finalement, ça me revient prix même moins cher que si je les avais achetés, moins cher que si je les avais achetés au détail.
Et bien, ça aussi, c'est un autre.
J'attends le Black Friday avec impatience parce que je trouve que c'est une initiative exceptionnelle, d'ailleurs même étonnante par son ampleur, et qui permet d'avoir des jeux de très grande qualité à moindre coût, quoi.
Bah, on est d'accord. Et d'ailleurs, entre parenthèses, si on veut revenir dans les discussions un petit peu pleines de controverses, il y a quand même des développeurs qui, à force, enfin, il y a tellement de soldes et tellement de gens qui attendent les soldes que surtout pour les petits développeurs, ça devient compliqué de vendre des jeux parce que les gens n'achètent plus les jeux qu'en soldes. Et là, on parle pas de Activision ou Blizzard ou Ubisoft ou tu vois. Non, donc, on est quand même dans une situation un petit peu compliquée.
Oui, mais moi, ce que je critiquais, c'était pas, enfin, payer pour un DLC, j'ai aucun problème.
D'accord.
Payer pour un DLC qui sort en même temps que le jeu, là j'ai un problème.
Mais oui, mais qu'est-ce que tu préfères ? Enfin, évidemment que si le DLC va être inclus dans la stratégie du jeu, dans la stratégie de la boîte, il va être développé en même temps. Tu voudrais que artificiellement, ils te disent.
Eh ben, tu sais quoi ?
Il est prêt, mais psychologiquement, on vous le donne dans un mois.
Eh ben, écoute, psychologiquement, je trouverais ça même mieux que les DLC arrivent après. Déjà, rien que parce que t'as au moins pas la sensation de te faire flouer dès le jour de la sortie, tu vois.
Ouais.
Et surtout, en fait, ça te permet de alors que tu as terminé ton jeu, ça te permet de revenir dans le jeu avec des extensions qu'ils te livrent tous les 6 mois, par exemple. Tu vois, presque. En fait, il y a la grande mode là des jeux à épisodes. Ça revient presque à faire du jeu à épisodes, même si c'est qu'un petit contenu en plus. Le fait de, et je pense que ce que va faire CD Projekt, c'est ça. Hein. Les DLC, ils vont pas sortir tout de suite. Hein. C'est au fur et à mesure que les DLC seront dispo, ils te rappelleront le jeu. Alors, tu vois, dans un cas comme ça, je serais prêt à les payer. Me dire que pour avoir Watch Dogs complet, il faut que j'achète pour 700€ de jeu acheter toutes les éditions, ça, voilà quoi.
D'accord. Bon, écoute, donc
sachant qu'en plus, il faut que j'achète la version PS4 pour avoir un niveau exclusif PS4, tu vois, enfin.
Bah ouais, mais il faut bien qu'ils se différencient, les gars. Enfin, là, on parle des constructeurs.
Non, bien sûr.
Tu vois ce que je veux dire.
Quelqu'un avait fait le calcul, hein. Je sais plus, tu le trouves facilement sur Internet. Si tu veux vraiment jouer à Watch Dogs au complet, je sais plus comment c'était, mais c'était colossal.
Colossal. Donc effectivement, il faut peut-être, je sais plus, 400€ de jeu et aussi une bonne dose de enfin, faut être pigeon quand même.
Mais regarde, si tu es fan d'une franchise vraiment, comme tu es fan de WoW, t'as bien acheté toutes les extensions, tu vois.
Bah non, mais moi j'ai travaillé pour Blizzard.
Regarde, imagine quelqu'un qui est fan au même point que toi. De WoW, mais d'un autre
non,
jeu.
Mais 400€, enfin 400€.
Non,
t'es
je
fou,
dis pas 400.
Jamais,
non. Bah, 400€ avec l'abonnement, excuse-moi, mais enfin bon.
Ah oui, bien sûr.
Des avantages chez Blizzard, mais ça c'est.
Oui, non, mais d'ailleurs, les contenus, les patchs sur World of Warcraft, ils arrivent gratuitement, mais tu payes ton abonnement, donc tu les payes un petit peu aussi. Mais bon,
oui,
c'est un modèle différent. Il y a les serveurs.
Mais ce que je veux dire, c'est que si tu es vraiment fan d'un truc, genre t'es fan d'Assassin's Creed, et tu veux avoir, jouer à tout le niveau, faire tout le truc, c'est moche parce que tu dois acheter deux ou trois éditions différentes parce que
il
y a des choses qui ne sont même pas proposées en DLC tout de suite, voire par exemple pour Watch Dogs, il y a des choses qui ne sont pas proposées en téléchargement dans le Season Pass, tu vois. Donc c'est ça que je trouve dommage.
Mais enfin, vraiment acheter les différentes éditions pour avoir les différents bonus.
Non mais justement.
Enfin, je pense pas que ça. Enfin bon, bref. Ok, ça serait un.
Je trouve que c'est un peu. C'est un peu se foutre des fans, quoi. C'est ça qui m'en embête.
Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que vous voulez dire et je me fais un petit peu l'avocat du diable aussi, mais il y a un autre.
Mais ça, je suis d'accord. Mais peut-être qu'il faudra augmenter le prix des jeux, tu vois. Je sais pas, hein.
Ouais, mais ça, à mon avis, si t'augmentes le prix des jeux, je pense que les joueurs seront.
Non, mais regarde, le Season Pass.
Plus furieux que.
Le Season Pass vaut 30€. Soit tu achètes le jeu avec les 30€ intégrés dedans et tu te poses plus la question, t'as vraiment tous les DLC quand ils sont dispo.
Mais ça existe.
Mais non, mais je suis d'accord, tu achètes le Season Pass. Mais je veux dire, tu achètes ta boîte en incluant ce prix-là dans le...
Non, mais ça existe, les éditions genre collector, machin, qui incluent
oui,
les
Game
Season
of
Pass,
the Year,
existe,
mais ils sortent pas tout de suite.
Non. Il y a des... Pour Destiny, il y avait des versions qui incluaient tous les Season
Pass
déjà.
Voilà, mais bon. Ça, c'est bien, je trouve.
Ouais. Oui, ok. Bon, ce que je comprends un petit peu, mine de rien, le fait que ça se... Encore une fois, je me fais l'avocat du diable, mais je comprends le fait que...
Voilà.
Ouais, quand il y a un contenu additionnel disponible tout de suite, c'est un petit peu maladroit, je suis d'accord. Puisqu'on parle de chiffres astronomiques, je suis sûr que vous êtes précipité sur eBay pour acheter des cartouches de Atari VCS 2600 de E.T. qui avaient été perdues pendant 30 ans.
Ah ben, j'ai acheté tout le stock.
C'est ça, à $1,500 pièce.
C'est ça.
E.T. en plus.
Ouais, en plus. Non, mais c'est ça qui est le plus mauvais jeu de l'histoire des jeux vidéo, qui, selon la légende, a provoqué la chute d'Atari, qui était au plus haut de sa gloire. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais... C'est marrant de voir les prix auxquels ça part, ces trucs-là, parce que c'est encore une fois une preuve que le jeu vidéo commence à avoir une histoire, mais pas une histoire au sens de une histoire qu'on raconte à ses amis, une histoire au sens de... Il peut y avoir un musée, quoi. Une histoire
oui,
avec un
ça.
Grand H, quoi.
C'est... Oh, mais ça, moi, j'ai pas de doute. Mais c'est vrai que quand on a commencé à jouer, c'était vraiment un truc pour les enfants. Maintenant, on a grandi, ça devient vraiment quelque chose de sérieux, tu vois. Et c'est une vraie industrie, donc il n'y a pas de raison, tu vois. Le cinéma, c'est musée et c'est livres. Et ses expositions, il n'y a pas de raison que le jeu vidéo ne les ait pas, quoi. C'est juste que nous, ça nous fait un peu bizarre parce que. Quand on est né, entre guillemets, il n'existait pas pour le grand public, et donc on a vu la naissance de cet art, et ça fait bizarre de se dire ouais, en fait, c'est pas si vieux que ça, et il y a déjà la possibilité de faire des musées où il y a une valeur sentimentale attachée aux objets qui est démente, tu vois, les cartouches de E.T., il y a une vraie histoire, quoi.
Ouais.
Alors que le cinéma est beaucoup plus vieux que ça, et on le trouve plus légitime. Mais en fait, imagine moi mes enfants. Qui viennent de naître, les jeux vidéo, ils n'ont pas connu la naissance des jeux vidéo et tout ça, ils naissent avec ça. Et pour eux, ils ne comprendraient pas qu'ils n'aient pas la même place dans l'histoire que le cinéma, tu vois.
C'est pas faux.
Donc, franchement, c'est un truc de génération.
Dans le milieu du journalisme sérieux, entre guillemets, puisque toi, tu évolues un petit peu dans ce milieu-là, est-ce que
chiant,
le jeu...
Je peux dire, hein.
C'est pas moi qui l'ai dit. Non, mais le journalisme traditionnel, est-ce que le jeu vidéo est considéré comme désormais un entertainment, enfin un art à part entière comme le cinéma ou la... Ou est-ce qu'on n'y est pas encore? Ou la musique?
Ou est-ce qu'on n'y est pas encore?
C'est très varié. Ça dépend vraiment des médias. Des médias. On se rend compte qu'il y a quand même encore une... Je sais pas, chez certains, en tout cas, une méconnaissance de ce que représente le jeu vidéo en tant que car on le voit encore trop comme un divertissement avec tous les travers que ça peut engendrer, et sachant qu'il y a certains médias qui s'évertuent à mettre en avant ces différents travers sans s'attacher beaucoup au côté artistique de la chose, même si on l'a vu avec la sortie d'Assassin's Creed Unity où la presse était quand même unanime sur le fait qu'on avait une œuvre assez considérable, mais ça reste, c'est très variable, c'est très variable. Il y a des médias qui vont traiter le jeu vidéo comme on traite un film.
Mais je veux dire, même parmi les journalistes,
ça reste encore quelque chose d'un petit peu trivial, on va dire.
Mais parmi les journalistes, je veux dire, sans dire de nom, mais au niveau personnel, est-ce que les journalistes traditionnels maintenant connaissent un petit peu le jeu vidéo? Ou, parce que c'est vrai que pendant des années, c'était pas le cas, mais où est-ce qu'ils sont encore un petit peu, ah oui, bon, ça, c'est les trucs que je touche pas, je connais pas. C'est des trucs qui ne sont pas nobles, tu vois.
Non, je crois que ça dépend vraiment. Ça dépend des journalistes. Je pense que ceux qui ont nos âges et qui ont grandi avec le jeu vidéo ont une approche beaucoup plus, bien sûr, comment dire, ils abordent le jeu vidéo au même titre qu'un autre art, quoi. Enfin, moi, c'est mon cas et c'est le cas de gens qui ont grandi avec les jeux vidéo et qui aujourd'hui en parlent. Maintenant,
ouais,
c'est sûr qu'il y a peut-être des journalistes plus âgés ou des gens qui n'ont jamais fréquenté les jeux vidéo au cours de leur jeunesse, qui voient ça d'une façon un petit peu ouais. enfin, qui s'en méfient un peu ouais. plus ou qui, ouais. ou qui traitent ça avec un peu plus de désinvolture, on va dire.
C'est marrant que tu évoques Assassin's Creed parce que justement, il y a il y a eu une sortie un petit peu controversée de Mélenchon. Ouais, qui a fait une critique acerbe de Assassin's Creed, du message d'Assassin's Creed, comme étant un jeu de propagande.
Normal, ça remet en cause un peu son fonds de commerce, alors.
C'est bon. Sûr. Mais, en fait, moi, ce qui m'a tout de suite, choqué, c'était l'idée, ah, voilà, on tape encore sur le jeu vidéo, c'est n'importe quoi, il a même pas joué au truc, est-ce qu'il comprend vraiment ce que c'est, machin. Et en fait, la réponse qu'ils ont donnée m'a paru finalement tout à fait légitime parce que ce qu'ils ont dit, c'est le jeu vidéo est une forme d'art comme une autre, donc on a le droit d'en critiquer le message comme on le ferait pour une autre forme d'art. Alors ensuite, le fait qu'ils aient raison ou tort, c'est un autre débat. Mais finalement, ils ont dit, ils légitimisent le jeu vidéo. Je me demande si c'est pas une pirouette pour se sortir un petit peu de leur condamnation un petit peu acerbe, mais... Il n'empêche, il légitimise finalement le jeu vidéo en tant qu'art, comme n'importe quel art. Donc
oui, c'est ça, comme le sapin de Noël, Place Vendôme et tout ça, quoi.
Oui.
On a le droit de pas aimer.
Tout à fait. Et il y a deux autres jeux qui sont sortis, enfin qui sont dont on entend parler ces derniers temps et qui m'ont évoqué quelque chose aussi un petit peu dans cette idée de la transformation du jeu vidéo en art à part entière. Il y a le jeu qui s'appelle That Dragon Cancer, donc ce dragon le cancer, qui est un jeu qui a été fait par, alors sortez les mouchoirs, hein, c'est assez terrible, deux développeurs dont le fils est mort du cancer il y a pas très longtemps et qui ont commencé le développement du jeu avant que leur enfant ne meure pour essayer de montrer aux gens ce que c'était que de vivre avec un enfant qui avait le cancer et c'est pas uniquement les lits d'hôpital, les traitements, la chimiothérapie, etc. C'est aussi les moments entre guillemets normaux de la vie avec cet enfant, avec ce garçon, et c'est plus un petit peu comme des jeux comme Gone Home. C'est plus une expérience narrative. Le jeu n'est pas encore sorti, hein, ils avaient un Kickstarter, mais c'est plus une expérience narrative qu'un vrai jeu au sens traditionnel. Mais ça montre encore une fois, ça développe ce côté
pas forcément lui.
Oh, même encore plus, non, encore moins bien, narratif, bien, quoi, tu vois. Mais oui, ça développe ce, encore moins ludique, c'est encore plus, encore plus narratif. Et il y a aussi un jeu qui s'appelle This War of Mine, qui est un jeu qui vous montre, ce que c'est que d'être dans une, et là qui est beaucoup plus ludique, mais qui vous montre ce que c'est que d'être dans une guerre quand on n'est pas un soldat. Ils prennent
oui,
un peu contre-pied.
Je comptais te parler après.
Ah oui.
Ah, je l'ai d'accord. mis sur ma wishlist Steam.
Ah, c'est vrai. D'accord. Bah, justement,
ouais,
on peut.
J'ai joué pas mal parce que le concept.
Ah, bah, tu peux nous en parler,
suite,
vas-y.
En fait.
Ouais.
Pardon.
Tu peux nous en parler, vas-y. C'est.
Oui, mais en fait, c'est un jeu où ils prennent le contre-pied des jeux de guerre traditionnels puisqu'on n'incarne pas un soldat, mais on incarne un civil. Qui tente de, enfin, un groupe de civils qui tente de survivre dans une ville complètement balayée par une guerre civile où des factions s'affrontent et donc on est dans un immeuble en ruine et il va falloir construire.
C'est un jeu en 2D, hein, vu de côté.
C'est pas un jeu en espèce de 3D isométrique, on va dire. Ouais. Enfin, non, 2D avec une profondeur plutôt. C'est, ouais. Oui, c'est effectivement le personnage évolue en 2D. En fait, on a un groupe de plusieurs personnages qui sont générés aléatoirement au début du jeu parmi une liste et qui ont quelques compétences propres et qui vont devoir. Le jeu se divise en deux phases. La première phase, on est dans la maison, on explore la maison et on tente de l'aménager de manière à pouvoir se défendre contre d'éventuels assaillants qui viendraient justement prendre les maigres ressources dont on dispose. Et la nuit où on dirige un seul personnage qui va aller explorer les environs à la recherche de matières premières, de nourriture, d'objets qui lui permettraient justement d'améliorer le confort de l'intérieur. Et évidemment, ça implique des rapports humains qui sont assez dérangeants au départ, vraiment, parce que c'est tellement réaliste, c'est les Polonais qui ont fait ça, c'est tellement réaliste que c'en est presque gênant, puisque le jeu nous place face à des situations forcément conflictuelles et à des choix cornéliens en permanence. Par exemple,
tu peux donner un exemple,
des enfants qui vont venir taper à la porte parce que leur mère est malade, ils demandent un bandage. La seule chose, c'est qu'il nous reste un seul bandage et qu'on a un gars qui est blessé parmi nous. Donc, est-ce qu'on donne aux enfants le bandage ou est-ce qu'on le garde pour nous ? Quelqu'un va nous demander de la nourriture ou quelqu'un va nous demander de venir l'aider. Mais on se dit que si on l'aide et qu'on est attaqué, nous, pendant la nuit, on ne va pas pouvoir se défendre. Et puis, ça peut aller même plus loin que ça, puisqu'il arrive un moment où on n'a plus suffisamment de ressources en les trouvant, en fouillant dans les endroits divers et variés. Et donc, on va se rendre dans des maisons. Et pour voler, en fait, ce qu'ont les gens, en fait. C'est-à-dire faire ce qu'on essaye d'éviter chez nous, on le fait chez eux. Donc ça pose tout un tas de questions. C'est très, très cru au niveau du jeu. Et on nous fait ressentir en permanence le fait que ce qu'on fait, c'est... On se comporte comme des salauds, en fait. Mais parce que...
Et c'est forcé parce qu'on est dans la guerre.
Parce que sinon, on va mourir. C'est très, très particulier.
C'est marrant, on t'écoute là, c'est le silence complet, et rien que le fait d'entendre ces choix finalement dont tu nous parles, enfin d'entendre le principe du jeu, ça m'affecte moi. Tu sais, déjà rien que ça,
c'est normal, ça te met face. Enfin, si demain tout venait à s'effondrer autour de nous, c'est des situations que l'on rencontrerait vraiment et qu'on enfouit au fond de nous et auxquelles on ne veut pas penser. Mais le jour où les sociétés s'effondrent, c'est ce vers quoi on tend. Donc, moi, je veux vraiment y jouer parce que c'est.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
J'ai envie de voir, quoi. J'ai envie de savoir.
Oui, effectivement. Bon, donc ça s'appelle This War of Mine. C'est ma guerre. C'est ma traduction. Non officielle. C'est ma guerre. Et c'est disponible sur Steam. Hein, je dis pas de bêtises. Il est déjà sorti.
Sur Steam, oui,
il est 18
raisonnable en plus. Hein, il a moins de 5 euros.
Donc voilà, c'est effectivement très intéressant de discuter de ces choses-là et de cette évolution du jeu vidéo. Et d'ailleurs, il y a des gens qui... Enfin, il y a eu une mouvance... Bon, bref, on va pas tellement en parler, mais il y a des gens qui disent « Non, les jeux vidéo doivent pas changer parce qu'ils sont bien comme ci, comme ça. » Et c'est aussi ça, le changement du jeu vidéo. C'est l'élargissement de l'éventail des jeux vidéo. Et il y a une comparaison qu'on fait souvent au cinéma... où on dit, enfin, c'est très difficile de tout mettre dans le même sac dans les jeux vidéo ou dans la télé ou dans, parce que de la même manière que dans le cinéma il y a des petits films d'auteur français super chiants ou en noir et blanc où les gens passent le temps à crier à se mettre des baffes parce que la vie c'est vraiment trop dur, et de l'autre côté il y a des films
Avengers
de... Non, Avengers, c'est bien encore. Moi, je voulais prendre un autre exemple de film pourri.
Fast and Furious. Non,
ah non, mais c'est très bien, Fast and Furious, qu'est-ce que tu racontes.
Non, moi, j'aime pas, mais...
Non, de...
Il y a bien, pas, ils ont fait...
Rim,
ils ont bien fait...
Pacific Rim ou...
Oh
tu
non,
vois,
Pacific Rim est bien, tu plaisantes.
Bon, tu vois, tous les goûts et les avis sont dans
Attends,
la nature.
Attends, on va être d'accord sur...
Il y avait ce film avec le croiseur, là, qui était... Ah, Battleship. Extraterrestre.
Battleship.
Ah, bah voilà, très bien.
Oui, qui était, oui. Donc bon, effectivement, il y a plein. Et Wolverine, j'ai bien aimé, entre parenthèses.
Le premier. Non, arrête. C'est impossible, hein.
Et donc il y a tout cet éventail. C'est impossible de dire le cinéma c'est ça. Il y a du cinéma pour tout le monde, pour plein de gens. Et là le jeu vidéo est en train depuis. Bon, ça fait un moment que le mouvement est en place, mais est en train d'arriver à cette situation. Je voulais aussi parler d'un autre sujet un petit peu controversiel, qui était un joueur de StarCraft 2 a été exclu d'un tournoi parce qu'il a fait un commentaire pour le moins maladroit en disant il jouait contre une fille qui avait été invitée là dans ce tournoi et il a été sur Twitter et il a dit alors que je retrouve la quote spécifique. I'm going to rape some girl soon at Fragbite Masters. Le tournoi, c'était Fragbite. Et donc, il dit, ouais, je vais la violer bientôt. Et du coup, il a été sorti du tournoi. Il s'est excusé. Je dis même pas qu'il a dû. Il s'est excusé sur Twitter très, sincèrement. On n'a pas de raison de douter que ses excuses soient sincères, mais je voulais en parler parce que je pense qu'il est facile de se dire, ouais, c'est bon, il le pensait pas, tu vois, évidemment, il a dit ça, c'était, ouais, c'est le politiquement correct, maintenant on peut plus rien dire, non, machin.
Enfin, voilà, il faut voir où se situe le curseur, là, tu vois.
Et exactement.
Je pense qu'il voulait pas la violer littéralement, enfin, c'est pas.
Non, bien sûr.
Mais
évidemment,
ce qui me gêne là-dedans, c'est le côté, enfin. J'ai pas le contexte dans lequel ça a été dit, mais c'est quelqu'un, à mon avis, qui s'enflamme pour un jeu auquel il va participer et puis il a envie de gagner. Après,
le problème, en fait, c'est que c'est le genre de commentaire qui est aussi dommageable que s'il avait dit, tu dis, ouais, c'est plus grave de violer que de tuer. Mais s'il avait dit, il avait été contre un joueur noir, par exemple, et qu'il avait dit, ouais, le petit nègre, je vais l'éclater. Évidemment que c'est pas acceptable, tu vois. Il y a des termes que tu peux pas utiliser. Et s'il avait dit le petit nègre, je vais l'éclater, je suis désolé, c'est pareil. On lui aurait dit ou si ça avait été un maghrébin, il avait dit ouais le bougnoul, je vais le renvoyer à.
Mais s'il avait dit je vais manger du couscous ce soir, tu vois.
Bah ça je vais manger du couscous, ça va. Okay. Mais tu vois le bougnoul, je vais le renvoyer à Tunis. C'est non. Ça, tu le dis, et ben pareil. Et là, on est en train de se. Enfin, pour moi, hein, visiblement, vous avez une interprétation différente, mais on est en train de se rendre compte que les commentaires de ce type-là, où on parle de viol, c'est dans le langage courant aujourd'hui pour les joueurs, presque dans le langage courant. Enfin, je sais pas, moi, je pense que nous, on dirait jamais ce genre de truc, mais.
Non.
voilà, mais c'est pas. On est en train de se rendre compte de la même manière que on se rendait compte de l'ampleur du racisme dans les années 50, 70. Il y a où il y avait certaines choses qui paraissaient normales et on a fini par se dire ouais bon finalement peut-être pas. Là, on est en train de se rendre compte que ce genre de commentaires où on se dirait bon allez c'est bon.
Ah
c'est
non
pas trop
non
grave,
non ça
vois.
Je
c'est pas ce qu'on dit
c'est pas
ce que
je dis.
J'ai dit c'est le contexte qu'il faut voir. Se focaliser sur un mot c'est bien mais il faut connaître le
bah ça dépend. Alors est-ce que le fait de dire ce nègre je vais le fumer ou ce nègre je vais l'écraser.
Non, c'est le mot nègre qui gêne.
Eh ben c'est pas... ça. Eh ben c'est ça le problème. C'est exactement le même problème. Tu vois pour moi je le prends de cette manière. Et bon ensuite on peut avoir une interprétation différente. Pour moi c'est le même facteur inacceptable dans cette tu vois t'es en train de jouer contre un enfin bref bon on va pas lancer le débat complet
oui,
mais
oui,
je voulais
oui.
mentionner
et
un petit peu la chose.
Non mais c'est juste un gros con enfin voilà je veux dire il faut
non
dire
mais même
chose.
Pas forcément tu sais le pire
bah
c'est
si,
que
il faut être con pour dire ça quand tu vas jouer contre une fille
bon,
enfin c'est
un petit peu. Mais
à la limite,
ce que je veux dire,
c'est
que...
qu'ils le disent avec ses potes et tout ça, mais en parlant de son pote, tu vois, bon. Moi, j'ai entendu des conversations où l'autre, il va dire, attends, ou des parties de Half-Life à l'époque, où j'avais un pote qui disait à un autre pote, je vais te sodomiser avec le pied de biche, et on rigolait, tu vois, parce que c'était.
Mais je crois que la différence, c'est que c'est pas des insultes, qui sont dirigés contre
taunt,
une partie,
que, ouais,
une voilà. partie de la population. Tu vois, ouais. c'est comme si, quand tu dis en anglais, ouais, il est gay, enfin, he's gay, machin. De plus en plus aujourd'hui, c'est pas hyper acceptable parce que c'est dirigé contre une partie de la population.
Ouais, oui.
Pareil, Bougnoul,
ah, le viol, c'est la moitié de la population. Hein, dire,
Oui, enfin là, en l'occurrence, je pense pas que, tu vois, il y a une culture. Enfin bref, bon, ne repartons pas dans
c'était
la.
C'était extrêmement maladroit, évidemment.
Pour le moins. Et ce que je voulais dire, c'est que je pense pas que ça soit. Oui, c'était maladroit, c'est sûr. Et le pire, c'est que je pense qu'il s'est excusé sincèrement et que c'est le genre de truc qu'on en arrive à dire sans vraiment se rendre compte de la portée et que parce que ça fait partie de la culture justement de cette culture-là et c'est
oh
petit
non,
à petit en
non,
train de changer.
Tu te retrouverais et... la même chose dans le sport, dans
oui, oui, non,
la
mais,
culture de la compétition. Pas
quand
du jeu vidéo. Hein.
Ouais, enfin, dans le sport, à mon avis, le jeu
vidéo. Là, on parle d'un tournoi de StarCraft 2 qui est de l'e-sport et pour moi, c'est du sport.
Ok. Cédric, le jour où tu entendras Zlatan arriver contre. Avant un match, dire ouais, ceux-là, on va les violer.
Ouais, enfin, bon, tu sais, je sais pas ce qu'a dit Materazzi à Zidane à l'époque sur le terrain, mais s'il a dit qu'il allait violer sa mère et je sais pas quoi et qu'il a pris un coup de boule, tu vois, on est à peu près à ce niveau-là, quoi.
Oui,
et on entend des choses bien pires. Même des
non,
entraîneurs
la
et
culture,
tout ça, enfin,
voilà. La culture dont je parlais, c'est il y a tout un débat dans les débats féministes sur la culture du viol. Et effectivement, ça c'est plus loin que le jeu vidéo, c'est la culture
voilà.
de nos sociétés en général.
Voilà, là pour mais moi c'est bon. Pas lié au jeu vidéo. Là, il s'avère que ça se passe dans le jeu
bon,
vidéo.
Disons
mais...
qu'il y a peut-être des gens un petit peu moins matures dans les jeux vidéo qui sont effectivement un peu plus jeunes et qui se. Bon, bref, ne c'était un sujet que je voulais évoquer. Visiblement, c'est bien parce que ça provoque des débats. Je voulais aussi finir sur ce sujet avec la Suède qui est en train de réfléchir à l'établissement d'un label pour les jeux qui promeuvent l'égalité des genres. Et c'est un petit peu le même sujet, tout ce débat sur le féminisme et le féminisme dans le jeu vidéo. Et je voulais donner un petit peu de contexte sur ce sujet parce que c'est très facile de se dire « Ah, oh, mais c'est bon, le label promeut l'égalité des genres, ça va, et après ça va être quoi ? Promeut ceci, promeut la gentillesse envers les animaux, promeut ce... » Encore que, bon, la comparaison est pas hyper habile, mais je voulais donner un petit peu de contexte parce que en Suède, ils ont une préoccupation sur l'égalité des genres, l'égalité des sexes, qui est beaucoup, beaucoup ouais. plus forte, et dans tous les pays nordiques, beaucoup plus forte.
Uriner assis, tout ça...
Non, pas à ce point-là, mais.
Ah, si, il y avait un projet de loi, hein. Oh.
Oui, bon. Écoute,
pour interdire
ça,
de faire pipi debout.
Oui, bon. Moi, ce à quoi je pensais, c'était des choses peut-être un petit peu moins anecdotiques, comme le fait d'avoir des jouets, les jouets pour les enfants, où ils font attention à ce genre de choses. Par exemple, ils font. Et je sais qu'en France, ça ne va pas forcément passer parce que. On n'a pas eu ce genre de réflexion depuis les 30 ans qu'ils ont eu dans les pays nordiques, mais le fait de pousser les petites filles vers les princesses jolies qu'on va sauver et de trop pousser les... Vas-y,
mon fils
je crains
a commandé,
le pire, là.
Mon fils a commandé la Reine des Neiges, la poupée de la Reine des Neiges à Noël, et on va lui acheter vraiment.
Ouais.
Donc, tu vois... le
la Reine des Neiges, c'est Frozen, non?
Ou... Ouais, c'est ça. Elsa, il veut Elsa, il veut Anna aussi. Donc, ouais. Tu vois, il est fan vraiment absolu du truc. Et du coup, il veut vraiment les deux poupées. Et on va lui acheter, tu vois. On va pas dire, non, c'est un garçon, il aura une mitraillette de G.I. Joe, quoi. Tu vois?
Non, évidemment, mais tu sais que la Reine des Neiges, justement, Frozen, c'est un film qui a été acclamé oui. pour ça, justement. Parce que la princesse n'était pas toute seule dans son château en attendant que le...
Ah, si,
le...
un peu quand même. Mais elle attendait
personne. Mais elle était... C'est un personnage hyper fort, tu vois.
Non, mais bien sûr. Mais donc, tu vois, il est...
Ouais, non, mais c'est très bien. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce genre de choses, le label en question, s'inscrit dans cette réflexion de société de comment on fait pour que l'égalité...
Moi, je suis contre les étiquettes, qu'elles soient positives ou négatives, c'est chiant, quoi. Enfin...
D'accord. Bah, écoute, c'est ton avis.
Non, mais toutes les étiquettes en général, et là, c'en est...
Toutes
c'en
les
est...
étiquettes. Étiquettes de prix, étiquettes de promotion...
Non, mais non, mais tu m'as compris, Patrick. Mais tu vois, l'étiquette podcasteur professionnel, l'étiquette... tu vois, ce genre de truc, c'est moi, ça m'ennuie, et le fait que on finisse par tout étiqueter, genre ça, c'est 100% français, ça, c'est 100% machin... Et pour la promotion des genres, je pense qu'en fait, ça va pas faire vendre plus les jeux ou moins les jeux.
D'autant
ça
Suède,
donner une indication peut-être. Mais
en Suède,
concrètement, les héroïnes à forte personnalité, ça manque pas dans les jeux vidéo, quoi.
Ouh là, mon pauvre, on va se lancer dans ce débat un jour tous les deux. Je pense qu'on aura des choses à dire.
C'est simplement pour dire que le jeu vidéo n'est bien sûr. Les jeux d'action sont principalement joués par des garçons. Ces études qui le démontrent. Mais quand on regarde
une histoire, mon pauvre Philippe. Vas-y, fini.
Laissons-le glisser sur sa pente.
je veux dire, il y a des héroïnes qui ont une forte personnalité et qui c'est pas seulement Lara Croft avec sa grosse poitrine et ses gros flingues.
Qu'elle n'a plus depuis le dernier.
Des héroïnes sensibles et puis qui savent.
À part Lara Croft et Faith dans.
Dans Remember Me aussi, c'est une héroïne. Enfin, tu vois.
Oui. Non, mais il y en a. Mais tu les comptes sur les doigts d'une ou deux mains.
Dans April Ryan, dans Longest Journey, qui était un formidable jeu d'aventure. Alex Vance aux côtés de Gordon Freeman dans Half-Life. Hein, c'est des.
Non, mais personne n'a jamais dit qu'il n'y en avait aucune. C'est tu sais, la réponse de dire ah mais regarde, en voilà trois.
Non, mais c'est celle qui me vient immédiatement à l'esprit. Dans Mass Effect, tu peux choisir entre avoir
une femme.
Évidemment, tu prends les exemples des sociétés qui font un combat militant presque, le fait d'avoir de l'inclusion dans leur jeu. Effectivement, en BioWare, ils vont même jusqu'à intentionnellement avoir des relations homosexuelles de tout genre dans leur jeu. Donc effectivement,
là, on va loin.
Oui. Bon, ça serait un débat super intéressant à avoir, mais on est déjà à plus d'une heure d'émission, donc je pense qu'on va continuer à avancer. Mais bon, je voulais le mentionner ici très rapidement, et puis c'est intéressant d'avoir vos avis aussi, parce que pour moi, c'est un sujet qui est vraiment intéressant et puis qui me tient à cœur, l'égalité des sexes, dans le jeu vidéo et ailleurs, hein, dans la société en général. Et je pense qu'on n'y est pas encore, mais le débat serait intéressant à avoir.
Ah non, ça c'est clair.
Oui. Donc voilà, ça, finalement, c'est juste le reflet de...
Pas certain que l'étiquette aide beaucoup.
Bon, c'est une approche qui est très scandinave, hein, qui est particulière là-bas. Et
après, s'ils ont de l'argent à dépenser pour mettre des labels, c'est leur problème.
Non, mais pour vraiment expliquer, sur les jouets, c'est une préoccupation depuis longtemps. Et donc, l'idée, c'est plus pour les parents, les grands-parents qui connaissent pas trop, qui se disent, moi, je voudrais un jeu où je peux être sûr que, de la même manière que Frozen, tu vois, ça va pas présenter aux petits enfants une fille qui attend d'être secourue et qui peut rien faire. Bah, Frozen, c'est un film où les petites filles, elles vont se dire ah ouais, moi je peux être comme elle et je peux aller de l'avant et être forte. Et ben de la même manière, les jeux, ils connaissent pas trop, ils vont dire bon bah ce jeu là au moins je suis tranquille, tu vois, je vais me dire je peux l'offrir à ma petite fille et elle va être
GTA 5, nickel,
voilà, par exemple. Non, mais tu vois, dans ce contexte, c'est ça explique un peu quoi ensuite, voilà. Bref, il y a un dernier sujet avant de parler de notre discussion. Finalement, on en a eu plusieurs, c'est bien. On a eu plusieurs sujets de discussion sérieux dans cette émission. C'est exactement ce que je voulais, donc c'est parfait. Mais un truc, je pense que je vais me faire taper dessus par tous les auditeurs et peut-être même vous, la folie de Zelda. Il y a quelques mois, ils ont annoncé un Zelda sur Wii U dont ils ont montré exactement 3,5 images et tout le monde a explosé. Tout le monde s'est dit « Oh mon Dieu, c'est tellement bien, je veux une Wii U tout de suite !» Et ils sont précipités dans le magasin pour en acheter. Aujourd'hui, on a Majora's Mask qui est annoncé sur 3DS, qui est un remake d'un jeu qui existait, qui a pas été un succès commercial énorme, mais dont beaucoup de gens se souviennent avec émotion. Et là aussi, tout le monde a explosé. « Waouh, Zelda sur 3DS, encore un remake, c'est trop trop fort !» Et autant je suis un fan de Zelda, j'en ai fait beaucoup, je les aime beaucoup, c'est l'une des séries fondatrices du jeu vidéo, autant s'enthousiasmer autant pour un truc, en particulier le Zelda Wii U, dont on ne sait absolument rien... Enfin, est-ce qu'on ne s'enthousiasme pas trop pour certains jeux quand on n'a pas les détails sur ces jeux ou quand on n'en sait pas grand-chose ? Je suis peut-être un petit peu coupable de ce genre de choses. J'ai commencé un podcast sur Overwatch en anglais qui s'appelle Overwatchers, alors qu'on a... Bon, en même temps, on a joué un petit peu au jeu, on en sait plus que pour le Nintendo Zelda Wii U, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un problème avec Nintendo et Zelda ou est-ce que les gens ont raison d'être...
Ça me choque pas plus que ça que quelqu'un qui soit... vraiment fan de la saga, s'enthousiasme parce qu'il sait qu'il va bientôt en avoir un nouvel épisode. Enfin,
mais enfin, on sais pas, savait
moi,
déjà,
moi, je trouve
non
ça plutôt.
Mais on savait déjà finalement qu'il y avait, on savait déjà qu'il allait y avoir un Zelda sur Wii U. Bah, il n'avait pas dit, mais là, la seule chose. C'est ça, c'est ça. Non, mais en fait, donc on était dans une situation où c'était genre, bon, bah, on savait qu'il allait y avoir un Zelda sur Wii U. Là, Nintendo vient et dit, il va y avoir un Zelda sur Wii U. Et tout le monde fait, oh, trop fort, c'est incroyable, j'ai acheté une Wii U, c'est trop merveilleux.
Parce que l'arrivée, parce que peut-être qu'il y a des gens qui n'auraient pas acheté de Wii U. Enfin, c'est quand même un des jeux qui peut être déclencheur de l'achat d'une console, comme GTA peut l'être,
Donc, mais on savait qu'il allait y en avoir.
Ou comme l'était Gran Turismo à une époque.
Patrick.
Les gens, ils voient quelques images et ça suffit pour enflammer leur imagination. Moi, à titre personnel, hein, franchement, si Valve montrait trois images de Portal 3, je sauterais sur mon siège.
J'ai cru que t'allais dire Half-Life 3, et là, ça aurait été, on aurait pu prédire l'explosion du monde entier, quoi.
C'est
ça.
Même Portal 3.
C'est vrai.
Je pense que même le micro de Philae, il aura entendu crier, tu vois, tellement. écoute, moi, Nintendo, je suis plus du tout passionné, alors que j'ai commencé à jouer sur des consoles Nintendo quand j'étais petit, quoi. Et en fait, ça me fait ni chaud ni froid, la sortie de nouveau Zelda.
Ah, tu fais partie de ces gens-là?
Ouais, maintenant, je m'en fiche un peu. Et mais en fait, tu sais, tu dis, ah, je comprends pas trop, ils annoncent ça et tout le monde saute, machin.
Fais
le parallèle avec Star Wars, dont ils viennent d'annoncer qu'il y aura un trailer diffusé le 28 novembre dans 10 salles aux États-Unis. Les gens vont acheter des billets pour aller voir la bande annonce et vont sortir de la salle en suivant, comme il avait fait pour la menace fantôme à l'époque et tout ça, tu vois. Ils vont se filmer le premier Batman et tout ça. C'est des phénomènes que tu n'expliques pas, en fait. La vérité est ailleurs.
C'est vrai. Non, et puis en fait, bon, je suis un petit peu de mauvaise foi, mais c'est vrai que je comprends parce que je m'excite aussi pour d'autres trucs, mais c'était cette image de Zelda.
Quand le premier trailer de Star Wars va sortir, Patrick, je pense que tu vas être comme un fou aussi.
Ah, mais tu sais que moi, je suis pas très fan de Star Wars.
Non, mais
je pense que tu vas quitter ce podcast tout de suite.
Ok, ben je raccroche. Au revoir.
Bon, une dernière news avant notre petite partie discussion. Hatoful Boyfriend. Qui va sortir sur PlayStation 4 et PlayStation Vita bientôt, qui est déjà disponible sur PC sous Steam, qui est un jeu, c'est vraiment la partie what the fuck, quoi. C'est un roman interactif où on joue une jeune fille qui va à l'école avec des pigeons. Mais pas des pigeons genre les entrepreneurs en France, hein, des pigeons, des oiseaux. C'est un dating game, donc un roman interactif où on doit se trouver un petit ami. Et il va, mais je sais pas, je voulais juste parler de ce, ouais, non, peut-être pas, peut-être que ça sert à rien.
C'est tellement what the fuck.
C'est tellement what the fuck, quoi. Hatoful Boyfriend, c'est parce que pour moi ça symbolise le truc, l'esprit complètement à des années-lumière de ce qu'on connaît des Japonais.
Ah,
tu sais,
c'est
un jeu japonais.
Oh, tu sais, comment il s'appelle le jeu avec la chèvre?
Même le kawaii, c'est...
Ouais. Non, c'est vrai que God Simulator...
Ouais, God Simulator, c'est un même style, arrête.
Ouais, c'est vrai.
Enfin, bon, sauf que, ok, c'est pas avec des pigeons, on n'a pas une amourette transgenre avec des pigeons. Bizarre, tu vois.
Trans-espèce
avec des pigeons, c'est sûr.
Non, mais là, c'est vraiment, enfin, tu vas à l'école et les profs, c'est des pigeons, les étudiants, c'est des pigeons, et personne ne dit à un moment, je suis un pigeon, quoi. Enfin, ok, ça nécessite peut-être pas
écoute,
forcément.
Peut-être un jour, tu feras un podcast avec des pigeons, ça va te faire drôle.
Mais c'est ce que je fais déjà maintenant.
Ouais, c'est ça. Ouais. Merci.
Sujet de discussion, les problèmes au lancement. Encore une fois, quelque chose de polémique. Assassin's Creed Unity, Master Chief Collection, Drive Club qui a encore des problèmes, World of Warcraft et d'autres encore qui ont eu des problèmes au lancement.
Ah, bon, frère, tous les DLC alors.
Ouais, bah écoute, mine de rien, c'est Drive Club qui offre les DLC justement pour se faire pardonner. J'en parlais dans une émission en anglais il y a pas si longtemps et je crois que j'ai pas bien réussi à exprimer ce que je voulais dire et vous allez me dire si c'est une explication que vous avec laquelle vous êtes d'accord. À mon sens, il y a une vraie différence entre les jeux qui sortent entre guillemets pas finis parce qu'il faut respecter la date de sortie et les jeux qui sortent et qui ont une popularité trop grande et qui donc ont des problèmes de serveur. Et généralement, ces problèmes durent 2-3 jours et ensuite, ça se calme. Parfois, il y a un mélange des deux, mais ce qu'on a vu avec Assassin's Creed ou Drive Club, j'ai l'impression que c'est plutôt des jeux qui sont sortis alors qu'ils, parce qu'ils devaient sortir à ce moment-là et qu'il y a des considérations financières importantes hein, qu'il ne faut pas négliger. Et des choses comme Master Chief Collection et WoW sont peut-être un petit peu à mi-chemin entre les deux. D'ailleurs, Master Chief Collection et WoW se sont...
Tu pourrais citer Watch Dogs aussi à son lancement, hein, c'était dans le même style. Hein.
Watch Dogs qui était... Je ne me souviens plus quels étaient les
Ah bah, le problème, c'est que
c'était
serveurs...
du réseau ou le jeu était...
Ah non, c'était un problème de réseau, très clairement.
Oui, d'accord. Oui.
Enfin, il y avait aussi quelques bugs, mais c'était surtout et essentiellement un problème de réseau. On ne pouvait pas jouer en réseau avec ses potes, quoi. C'était impossible.
Donc il y a les problèmes d'une part et puis ensuite comment ça se passe ensuite et je pense que généralement les choses se passent enfin comment s'excuser d'un truc comme ça Drive Club qui offre tous les DLC gratuitement je pense que c'est une bonne excuse même si là vraiment les problèmes ont duré pendant je sais pas 3-4 semaines Blizzard offre 5 jours de jeu aux abonnés pour quoi 3 jours de problèmes et ils ont fait leurs excuses aussi je pense que là aussi c'est une bonne manière d'essayer de corriger de réparer la relation qu'il y a eu avec les joueurs surtout que dans le cas de WoW avec les 10 millions
rappelle-toi de Diablo 3.
Bah Diablo 3 il y avait deux problèmes, il y avait d'une part les problèmes de serveurs qui ont duré trois jours vraiment vraiment dur, mais après il y avait le problème du gameplay du jeu avec l'hôtel des ventes qui là était un autre souci.
Oui non mais moi je parle plus des problèmes de réseau enfin.
Oui c'est ça et Master Chief Collection ils sont encore en train de corriger les problèmes mais ils ont dit on fera quelque chose pour s'excuser c'est certain enfin quand tous les problèmes seront corrigés etc. Donc la question que je pose c'est est-ce que les développeurs, les sociétés sont des gros monstres bourgeois capitalistes qui ne pensent qu'à l'argent et qui nous arnaquent, nous gentils clients qui payons de l'argent pour leur jeu, ou alors est-ce que c'est simplement des problèmes absolument inévitables parce qu'aujourd'hui les jeux sont tellement complexes que les pauvres développeurs ils peuvent vraiment pas tout savoir ils ont pas le choix et c'est impossible de prévoir tout ça et ils sont à plaindre les pauvres développeurs et nous on devrait vraiment être compréhensifs et même leur donner encore plus d'argent pour qu'ils puissent mieux faire les jeux ou est-ce que la vérité est entre les deux. Je vous pose la question celui qui veut commence à parler. Ah. C'est une question facile, hein.
Ouais, c'est une question très simple. Non, écoute, moi je pense que non. Les studios, bon, ok, ils sont là pour faire de l'argent, comme toute société. C'est pas ça le problème. Mais je pense qu'ils ont à cœur quand même de faire les choses plutôt bien. Sinon, le jeu suivant se vendra pas, quoi. Enfin, tu vois, c'est tout simplement. C'est un calcul mathématique qui est très simple. Les problèmes au lancement liés au serveur et tout ça, pour moi, sont des problèmes qui pourraient être évitables. Les problèmes liés à des bugs in-game, sur console, pour moi, c'est des problèmes qui pourraient être évitables. Sur PC, vu la multitude de matériel, de cartes graphiques, de cartes mères, de processeurs, de tout ce que tu veux, vu le nombre de paramètres, il est impossible de tester le jeu sur toutes les configurations. Par contre, c'est sûr que si tu testes sur une configuration qui n'est pas majoritaire, et que malheureusement sur les configurations moyennes type tu vois c'est même impossible à définir sur PC le jeu rencontre des problèmes là tu peux t'attendre à recevoir des enfin je veux dire t'as lâché un gros paquet sur le ventilo tu vois ouais. Tu risques de te faire éclabousser et pas qu'un peu et ben là c'est pour moi c'est ça c'est-à-dire que on est face à des boîtes qui parfois n'ont pas poussé le debug alors peut-être pour des raisons de temps hein. Mais
ouais, c'est ça, il y a la période de Noël.
Et aussi pour des raisons de plateforme,
absent,
tu vois, Assassin's Creed Unity, moi j'ai joué sur PS4, j'ai pas rencontré un problème.
Bah, t'y as joué quand?
Le jour de la sortie. Donc,
ah oui,
le 13 novembre,
donc
c'était je crois,
ouais.
Ou 14.
Il y avait pas encore les patchs, ouais.
Non, il y a pas de patch, il y avait rien. J'ai pas eu tous ces problèmes de visage qui disparaissaient, de cheveux L'Oréal qui pouvaient apparaître. J'ai pas eu ces problèmes-là. Donc, tu vois, je me dis que potentiellement, si la plateforme, sur console, je pense que c'est plus simple à arriver à avoir un jeu un peu sec, sans trop de bugs. Alors que sur PC, pour moi, c'est presque mission impossible. Enfin, je me souviens pas avoir joué à un jeu PC sans rencontrer de problèmes à même il y a 10 ans, tu vois. C'est pas nouveau comme problème pour moi. sur PC. Peut-être que maintenant que les jeux sont diffusés beaucoup plus en masse, au lieu de, enfin, quand avant tu touchais 10% et que ça représentait, je sais pas moi, 100 000 personnes, aujourd'hui quand tu touches 10% et que ça représente 500 ou 800 000 personnes, ça s'entend un peu plus, quoi, tu vois.
C'est sûr. C'est et surtout qu'avec Internet, effectivement,
et voilà,
on est tous
et on a
au
aussi
courant.
Ce, on,
mais
voilà,
en même temps,
Internet, c'est le mal. Moi, je vous le dis.
Les, oui,
c'est
sûr. Mais en ça. Même temps, les jeux.
Les mauvaises nouvelles vont vite maintenant.
Et c'est ça. Twitter, Facebook, vous, c'est le mal. Moi, je vous le dis.
Mais vous pensez que c'est que ça, ou alors est-ce que, quand même, à l'époque où il n'y avait pas Internet, bah, on pouvait pas mettre à jour les jeux. Donc, une fois qu'ils sortaient,
voilà,
ils devaient être terminés, le jeu.
Ouais,
pourquoi est-ce qu'ils font pas ça maintenant? Enfin, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que disais à propos des serveurs, Cédric, parce que quand il y a l'affluence du lancement, c'est hyper hyper dur de prévoir. Il y a des gens qui disent, mais serveurs en carton, t'en loues chez Amazon et c'est bon, tu fais face à l'afflux de départ. Mais ça marche pas comme ça. Évidemment que ça marche pas comme ça. Donc, pour les problèmes de serveurs au lancement, à mon sens, c'est plus difficile à résoudre que les problèmes de jeux entre guillemets pas finis, qui justement, on se dit, je voudrais parler à poser la question à Philippe. Est-ce que dans ce cas-là, à l'époque justement, on avait les et entre parenthèses, Cédric, région par région, ça poserait le même problème région par région. En l'occurrence, les serveurs sont pas les
villes par
souvent.
Ville.
Ouais, ah d'accord. Mais
appartement par
voilà, effectivement, joueur par joueur. Mais en même temps, il y a des gens qui donnent l'accès aux gens qui précommandent avant la sortie officielle. Je pense que c'est un petit peu pour ça aussi. Hein. Les développeurs qui donnent l'accès avant ça, et il y en a même qui réussissent à le vendre cet accès. C'est anticipé, donc c'est fort. Mais donc je voudrais poser la question à Philippe, qui a un certain âge lui aussi, comme moi. Il y a une époque où les jeux devaient être finis au moment de la sortie, et voilà, et c'était tout. On pouvait pas le mettre à jour. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ils font pas la même chose? Pourquoi est-ce qu'ils se disent pas, mon jeu doit être fini et je le sors. Enfin, on a la date de sortie, il sera fini avant, comme à l'époque où on devait les finir, on n'avait pas de patch. Pourquoi?
Si on remonte très longtemps en arrière, les jeux sortaient finis. Enfin, en fait, ils n'étaient pas forcément finis. Ils sortaient, il n'y avait pas moyen de les corriger. Mais moi, j'ai une culture PC. Hein, j'ai commencé à jouer dans les années 80. Il y avait des jeux buggés et tu pouvais rien y faire, quoi. Il y avait déjà le problème des configurations qui supportaient pas tel jeu. Et à l'époque, t'avais rien pour t'aider, mais faut pas croire qu'avant les jeux sortaient parfaits. Hein. Le nombre de fois où j'ai dû aller modifier l'autoexec ou le config6 pour pouvoir résoudre des problèmes d'incompatibilité avec la carte son, choses comme ça, c'était pas prévu. Donc, j'ai l'impression que le problème, c'est que les développeurs ont plutôt tendance à se dire aujourd'hui, c'est pas grave parce que de toute façon, on pourra le corriger après.
Ouais.
Tu vois, c'est ça qui est peut-être plus gênant, se dire que t'inquiète, on le sort là, il faut le sortir là, il y a les actionnaires qui commencent
qui
à râler, on a une deadline, et puis au pire, on corrigera après, au pire. Sauf que ça peut prendre des proportions énormes. Quand on voit la cabale contre Assassin's Creed Unity, on le voit bien, c'est un jeu qui
là,
est sorti dans un état... Comme dit Cédric, hein, c'est, je le rejoins, c'est super difficile de sortir un jeu stable pour PC parce que les configurations sont toutes différentes.
Oui, mais sur console...
Mais là, on a atteint quand même un niveau de...
Parce que Drive Club, c'est console, Master Chief Collection, c'est console. Moi, je dirais aussi, en plus du fait qu'il y avait effectivement...
Mais là, c'est le problème plus de
serveur. Disons que Drive Club, les problèmes sont tellement profonds, on a l'impression que leur netcode... Parce que des problèmes de serveur, c'est pas des problèmes d'affluence de serveurs sur Drive Club. C'est des problèmes de conception des serveurs, ce qui était visiblement difficile à tester aussi, parce que c'est difficile de tester dans des conditions réelles quand tu n'as pas des millions de personnes qui se connectent à tes serveurs. Alors tu peux essayer avec une bêta, etc., mais évidemment, en l'occurrence, pour Drive Club, qui a été un vrai problème pour Sony, évidemment qu'au moment des tests de bêta, ça marchait. Enfin, je veux dire, s'il y avait eu ces problèmes-là... oui, non, mais ils avaient fait une bêta où il y avait beaucoup de joueurs, sans doute quelques dizaines de milliers, peut-être quelques centaines de milliers, mais évidemment que ça marchait. Si ça marchait pas comme ça, je pense qu'ils l'auraient pas sorti. Je crois que couplé à ce que tu disais, Philippe, il y a des jeux qui sortaient buggés à l'époque et ensuite, bah, soit il y avait pas de patch, soit il fallait attendre que les gens distribuent les patchs. Il y avait des débuts d'Internet, hein, même dans les années 90. Donc, tu essayais de récupérer le patch que tu téléchargeais et que tu appliquais toi-même à ton programme. Mais ça prenait du temps. Et en plus, les jeux sont plus complexes. Évidemment, qu'à l'époque, ils sont plus complexes aujourd'hui.
Ils sortaient aujourd'hui. Dans les magazines aussi, je ne sais pas si tu te souviens.
Ouais. Oui, c'est vrai.
Les magazines de jeux proposaient des CD dans lesquels il y avait les patchs.
Ouais. Tout à fait, ouais, ouais. Des méthodes de distribution intéressantes à l'époque. Mais oui, les jeux sont infiniment plus complexes aussi. Et donc, ils ont forcément, je veux dire, un jeu, même il y a 10 ans, il y a 15 ans, c'était pas... Enfin, les équipes étaient plus petites, les jeux étaient moins gros, moins complexes, etc. Donc, ça facilite l'arrivée des problèmes. Et puis, je pense qu'il y a aussi le fait qu'on puisse finir par appliquer des patchs en ligne facilement aujourd'hui. Un jeu, c'est un petit peu comme un tableau ou comme un film ou comme... C'est jamais vraiment, vraiment fini, quoi. Si tu parles à l'artiste, il va toujours te dire « Ah non, mais attends, j'ai encore un petit truc à faire, il n'est pas parfait, il n'est pas... » Il y a jamais un moment où tu te dis « Là, c'est terminé, j'ai fait tout mon boulot et c'est... » Donc je pense qu'il y a cette tendance un petit peu insidieuse chez les développeurs à se dire « Bon, je vais encore corriger juste un petit truc là ou un petit machin ici. » Maintenant, oui. Je pense que il faut pas non plus... tout excusé, il est certain que certains de ces problèmes sont assez inacceptables, même s'il y a des explications qu'on peut donner. Dans certains cas, il y a clairement des erreurs qui ont été faites et qui n'auraient pas dû avoir lieu. Quelle est la réaction à avoir ? Je pense que dans ce genre d'entreprise très complexe, quand je dis entreprise, c'est le développement d'un jeu, pas une société, mais ce genre de projet hyper complexe, il y a forcément des gens qui vont se planter à certains moments. Et je pense que ce qu'il faut regarder, c'est comment est-ce qu'ils réagissent après et est-ce que la manière dont ils gèrent ces crises-là est acceptable ou pas. Le fait d'offrir tous les DLC, c'est un geste fort. Bon, je pense que Blizzard a bien réagi. Halo, on va voir ce qu'ils vont faire. Assassin's Creed Ubisoft, on va voir ce qu'ils vont faire. C'est comme, enfin, il faut qu'on, si on se regarde soi-même, vous-même, regardez-vous, est-ce que vous avez jamais merdé? Est-ce que vous avez jamais fait une connerie?
Jamais.
Jamais.
Jamais, monsieur.
Bah, Cédric, jamais. Donc, pour moi, c'est vraiment... évidemment, il faut...
Non, allez, vas-y, on va leur laisser le bénéfice du doute. C'est Assassin's Creed Unity sorti sur les consoles next-gen. C'était vraiment la première fois. Bon, allez. Hein, ouais. On va leur taper sur l'épaule et leur dire « Tu feras mieux la prochaine. »
Ouais. Non, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être exigeant et qu'il ne faut pas être énervé,
ah non,
tu vois.
Bah, 70 mais, euros le jeu, tu as le droit d'être exigeant.
Tu as le droit d'être énervé.
Exactement, ouais, exactement. Tout à fait, tout à fait. Mais...
Puis quand tu parlais des films tout à l'heure, tu disais que les films sont jamais finis. Enfin, moi, quand tu vas voir Avengers, t'as pas des bugs dans le film, quoi.
Non, c'est sûr, mais je veux dire...
des fois, il y a des faux raccords.
Non, mais attendez, on aura Avengers 1.2.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que si t'écoutais Joss Whedon, je suis sûr qu'il aurait pu continuer à travailler sur le montage d'Avengers ou faire des retourner des scènes pendant encore 5 ans.
Bien sûr,
mais le
film était très convenable quand il est sorti.
Tout à fait. Non, mais évidemment, Avengers, c'est l'un de mes films préférés. Alors, je parlais plus de l'intention de l'artiste.
Assassin's Creed ou... Enfin, le problème, c'est...
Le film, c'est clairement...
Il n'y a pas que celui-là, mais... Il était clairement défectueux au départ.
Ouais.
Et pour quelqu'un qui a dépensé 60 euros sur PC, c'est quand même une sacrée somme. Moi, je comprends qu'il soit vraiment très en colère et qu'il attende un dédommagement.
Alors, quel type de dédommagement, par exemple, serait satisfaisant sur Assassin's Creed, justement? Est-ce que, genre, des DLC proposés gratuitement, justement, est-ce que tu penses que ça te satisferait? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, quoi?
Bah, ce serait au moins une forme de dédommagement. Je suis pas à la place d'Ubisoft, je sais pas quel dédommagement, quelle est leur marge de manœuvre, mais de toute façon, oui, un dédommagement, une manière de montrer à ses clients que qui sont navrés de la situation, que c'est pas ce qu'ils voulaient. Enfin, faut pas oublier derrière qu'il y a des équipes de développement qui sont absolument considérables. Enfin, chez Ubisoft Montréal, j'ai eu l'occasion d'y aller, enfin la chance d'y aller, c'est considérable. Ouais. Moi, je pense que ils étaient tous ils doivent être dans un état lamentable au niveau moral. Ils bossent dessus depuis 2 ans et c'est une catastrophe quand ils sortent. Quand ils sortent, les gens qui sont investis dans le projet, ça doit être super dur pour eux, quoi.
Je pense que les devs, en plus, ont dû freiner. On dû dire, non, on le sort pas, c'est pas possible. Et en fait,
c'est possible, ouais.
Ouais, je sais même pas, hein. Franchement.
Je pense qu'il y a des devs qui s'en sont rendus compte, c'est pas possible. Et je pense qu'au-dessus, la chaîne de responsabilité, il y a quelqu'un dans le lot qui a dit non, la deadline est là, c'est comme ça, on le sort maintenant et on patchera, quoi.
Ouais, sauf
que. Et les devs
doivent
être désolés, tu vois, c'est pas.
Alors que chez Ubisoft, moi, quand j'y suis allé, ils ont des campagnes de bêta-test en interne. C'est-à-dire qu'ils font venir des joueurs qui payent en interne pour tester la fiabilité du jeu, quoi. Donc il y a forcément, comme dit Cédric, ça a forcément été détecté à un moment, quoi.
Ouais. Mais si tu veux. Sur Assassin's Creed peut-être, parce que c'est vrai que les bugs étaient tellement clairs, enfin ce bug, le problème aussi que c'est un bug tellement visible.
Ils vont faire des masques à imprimer, avec la texture manquante que tu mets sur le visage.
Mais c'est vrai que cette texture, c'est tellement visuellement choquant que je pense que ça a aussi voyagé beaucoup plus vite sur internet qu'un autre bug, parce que finalement il y avait le problème du héros qui passait à travers le monde et qui tombait à travers le sol à l'infini, qui était un gros problème, c'est sûr, mais
des personnages qui marchent sur les murs enfin à l'horizontale au lieu d'être debout, quoi.
Ouais, c'est sûr, il y avait des gros problèmes. Mais tu vois, un truc comme Drive Club par exemple, ils l'ont déjà décalé de 6 mois. Je pense que s'ils s'étaient rendu compte que le lancement aurait été aussi problématique, je pense qu'ils l'auraient pas, ils auraient décalé, tu vois. C'est pas tout, n'est pas effectivement il faut le sortir à tel moment et puis voilà, et c'est tout. Sur World of Warcraft, il y a eu un problème d'attaque DDoS aussi au début qui a pas aidé les choses aux États-Unis. Je sais pas quelle est la solution. C'est ça qui est le plus frustrant fait dans cette histoire, parce que s'ils avaient décalé Assassin's Creed d'une semaine par exemple, peut-être qu'on aurait pu se dire bon, ça aurait suffi à régler les problèmes. Peut-être pas. Peut-être qu'il aurait fallu un mois pour régler tous ces problèmes-là, ou peut-être ça met en danger Ubisoft, donc c'est pas une décision qui est facile à prendre. S'ils avaient décalé de 3 semaines ou 1 mois, peut-être qu'ils auraient raté la période vraiment des achats de Noël, la période forte, parce que ça se fait pas 2 semaines avant Noël, ça se fait bien un peu avant, en novembre, quand il est sorti. Et si ça met Ubisoft en danger, est-ce que cette décision est évidemment difficile à prendre, tu vois. Je veux juste donner encore une fois tous les éléments.
This war of mine, c'est ça. C'est en fait, à un moment, il y a un mec qui doit prendre la décision de soit je vais décevoir des millions de gens, soit la société va perdre énormément d'argent. Et c'est là où tu dois être face aux réalités et te dire, qu'est-ce que je fais, quoi.
Ouais. Voilà. C'est sûr. Philippe, je t'ai interrompu, pardon, tu voulais dire un truc aussi ?
Non, je disais que effectivement, il y a certains bugs de toute façon qui auraient été qui étaient indécelables avant de lancer le jeu. Le problème, c'est que dans ce cas précis, et encore une fois, on ne va pas se focaliser non seulement sur Assassin, c'est celui qui fait l'actualité en ce moment, mais il y en a d'autres, et il y en aura d'autres. Oui. Le problème, c'est que là, c'était à grande échelle, quoi. Et donc, ça a focalisé les tensions de la part des joueurs qui se sont sentis frustrés. Et à mon avis, c'était inévitable sur certains bugs. Il y a des gens qui ont des configurations particulières sur lesquelles le jeu va forcément poser problème.
Ouais, c'est ça.
Ouais, je crois que sur PC, tout le monde est d'accord que c'est difficile de gérer.
Et je trouve
bugs,
que les joueurs PC
sur console,
sont
c'est plus.
Les joueurs PC sont un peu plus compréhensifs, parce que justement, ils ont entre guillemets et malheureusement l'habitude de ce genre de problème lié aux configs et tout ça. Sur console, c'est moins excusable, quoi. Ça, c'est clair.
Bon, espérons que c'était effectivement un accident de parcours, parce que c'est les nouvelles générations de consoles. Encore que c'est quasiment toutes, les deux nouvelles sont des PC, donc.
Et en plus, elles ont un an, quoi. Donc.
Mais bon, espérons que c'était un accident de parcours et que pour les prochains, c'est ça aussi qui est important.
Ça servira de leçon.
Non, mais c'est ça, c'est que si ça arrive une fois de temps en temps, c'est un accident de parcours et tu peux comprendre. Si c'est tous les ans avec Assassin's Creed ou d'autres jeux que ça commence à arriver, là, je pense que effectivement les gens seront moins plus désabusés et se diront c'est bon,
gardez votre jeu.
Truc. Voilà. Non mais c'est ça, je pense que cette
pression
est importante.
Le risque que les gens n'achètent plus les jeux à la sortie mais attendent systématiquement.
Ouais, mais là tu vois, il faut faire le choix entre le profit immédiat, parce que c'est ça la question là pour Assassin's Creed, c'est le profit immédiat, là on le sort et on va engranger énormément d'argent, ou on attend au risque de voir notre action chuter, des problèmes financiers qui peuvent être graves et avoir des conséquences surtout. et l'insatisfaction des clients et le risque de... Enfin, c'est la politique du court terme qui l'a emporté, quoi. C'est ça le
Moi,
problème.
Moi, je pense que, tu sais, Assassin's Creed représente une telle partie du revenu d'Ubisoft. Je pense qu'ils n'avaient pas le choix et qu'ils se sont dit... Non, bon, ensuite, là, c'est nous qui interprétons, mais ils se sont dit, bon... on va le faire, ça va être un gros bordel, on va corriger comme il faut, et la prochaine fois, pour le prochain, on se démerdera pour qu'il soit vraiment bien fini ou on s'arrêtera. Tu vois, c'est effectivement la leçon, quoi. Mais je pense que d'une certaine manière, ils avaient effectivement pas le choix non plus. Enfin, je sais pas, peut-être qu'ils seraient aussi bien vendus s'ils s'étaient vendus deux mois plus tard, ou je sais pas.
Ouais,
mais tu vois, il y a des sociétés, je prends encore l'exemple d'une société qui m'est chère, c'est Blizzard, mais je me souviens de l'époque où ils avaient décalé la sortie de Burning Crusade, qui était censée sortir en décembre. Ouais. Finalement, ils l'ont sorti en janvier, mais c'était un truc qui était inimaginable pour une équipe marketing. Quoi, tu rates la période de Noël, t'es un malade, malade mental. Et mais bon, c'est une autre société aussi, qui a d'autres types de... Bon, bref, c'est un petit peu des cas particuliers à chaque fois. Et je pense que là, vraiment, le cas d'Assassin's Creed, comme tu dis, Philippe, on se focalise dessus, c'est pas le seul, mais il est un petit peu particulier. Et ce que je veux dire, c'est... T'as tout à fait raison, Cédric, c'est comme This War of Mine. C'est des décisions qui sont hyper compliquées dans les deux cas.
Qu'auriez-vous fait à leur place ?
Mais c'est ça. Et je pense que trop souvent, on caricature un petit peu. Bah, c'est normal sur Internet aussi, hein. Mais on caricature et on dit, bah, ils avaient qu'à faire ça. Ils avaient qu'à mettre plus de serveurs. Ils avaient qu'à sortir dans deux mois. Ils avaient qu'à machin. Bah oui, mais c'est pas si simple que ça. Donc c'est le seul message que je voulais faire passer finalement. Et c'est bien parce que vous l'avez tous les deux mis en avant. C'est pas aussi simple que ça. Ça veut pas dire qu'il y a pas de choses qui sont difficiles à excuser ou énervantes ou tout ça. Mais les choses sont pas aussi faciles qu'on veut parfois les voir. Exactement. Et sur ces mots d'une philosophie tellement
sagesse.
Profonde qu'elle me fait mal à la tête moi-même, on va conclure cet épisode du rendez-vous jeu, ce premier vrai épisode du rendez-vous jeu. C'est un épisode, bon, bah, encore une fois, on va chercher la bonne formule pour l'émission. Je sais pas si cette formule restera, si c'était exactement le bon rythme ou les bonnes news. Dites-nous ce que vous en pensez sur le site de l'émission, c'est frenchspin.fr. C'est là où j'héberge tous mes podcasts francophones. Donc, vous pouvez aller sur frenchspin.fr et nous dire, vous nous donner vos impressions sur la teneur de l'émission ou sur tous les débats qu'on a eu. On en a eu quand même pas mal, des animés et des intéressants. Donc, vous pouvez venir nous dire ça dans les commentaires sur frenchspin.fr ou sur les réseaux sociaux. Et vous pouvez notamment retrouver Cédric Bonnet sur les réseaux sociaux aux adresses qu'il va vous donner ou ailleurs sur Internet.
Oui, d'ailleurs. Sur mon compte Twitter, c'est @Cédric Bonnet, comme le bonnet qu'on met sur la tête. C'est bientôt la période. Et geeking.fr, voilà.
Parfait, pour une émission vidéo sur la culture geek qui est partagée dans l'émission. C'est bien
c'est ça,
ce slogan.
C'est ça, notre objectif, c'est de partager la culture geek.
C'est pas c'est la culture geek dont on vous parle, qu'on partage.
Non, c'est pas ça. On partage la culture geek.
Ok, d'accord, c'est ça. Et Philippe, où peut-on te retrouver sur Internet ou même dans la presse papier?
Sur Science et Vie Junior, ou chaque mois, et puis les dossiers de la recherche, et puis j'ai pas de...
T'as pas de compte
Twitter? J'ai pas de site, moi. Non. Mais j'ai plaisir à participer à celui des autres.
Bon, donc effectivement, Philippe Fontaine, c'est un vrai journaliste qui publie dans des vrais magazines.
Avec des lunettes ou pas?
Nous qui faisons...
Dans des vrais magazines, comme tu y vas. Ouais,
exactement.
Il y a des vrais magazines sur Internet.
Il y a des gens qui s'amusent à faire les idiots sur Internet, comme Cédric et moi.
Ouais, c'est ça.
Est-ce vraiment sérieux?
Non.
Bon, merci en tout cas à vous deux d'avoir participé à l'émission.
Merci,
ça m'a vraiment fait plaisir de vous avoir. Et puis pour tous les auditeurs, on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain épisode. Ciao à tous.
Ciao.
Ciao.